voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques et écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus d'être simplement le spectateur d'un système qui nous démange, mais de devenir l'un des acteurs du changement. Écoutons l'histoire d'une reconversion professionnelle réussite. Ils ont eu le courage de se lancer dans une activité totalement nouvelle pour eux. Ce jeune couple a franchi le pas de la reconversion en quittant Lyon et le confort citadin pour s'installer dans un village auvergnat où ils fabriquent du savon selon une méthode traditionnelle et écologique. Guillaume m'explique que le déclic a eu lieu lors d'un séjour de 4 mois à Madagascar. Dans cette émission La Voix du Kaizen, donnons la parole à Guillaume.
J'ai repris en fait la savonnerie de Beaulieu, je ne l'ai pas créée. C'est une savonnerie qui existait, donc c'était la savonnerie de Beaulieu-sur-Dordogne. Elle a été créée par une personne qui s'est complètement reconvertie, comme moi, qui était informaticien avant, et qui s'est installée sur quelques hectares pour faire du maraîchage bio, des plantes aromatiques, et également du savon. Et à un moment, c'était trop compliqué pour lui de gérer tout le travail à la ferme, plus les savons. Et moi, je montais ma savonnerie dans le Puy-de-Dôme. On a été mis en relation, on s'est rencontrés, on partageait à peu près les mêmes valeurs, la même passion, les mêmes envies. Il travaillait sous mention Nature et Progrès. Je voulais aussi travailler avec Nature et Progrès. Donc en une journée, je me suis décidé et j'ai repris sa savonnerie.
Tu dis reconversion, pourquoi? Qu'étais-tu avant? Quelle était ta vie d'avant?
Alors, j'étais cadre dans le logement social. En fait, je faisais du montage d'opérations immobilières chez les gros bailleurs sociaux. J'ai fait ça pendant 13 ans.
Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de 13 ans, on remette en question son parcours professionnel pour se lancer dans complètement autre chose?
En fait, deux mauvaises expériences coup sur coup, avec des employeurs pas tout à fait corrects. Et puis... une lassitude en fait du travail de bureau et puis du rythme semaine, week-end et avoir du mal en fait à pouvoir échanger avec mes collègues de bureau sur ce qui m'animait réellement en fait dans la vie, sur les valeurs que je portais. Et j'avais envie d'avoir plus cette rupture semaine, week-end, d'être à fond en fait dans ce que j'avais envie de faire.
Parlons-en de ces valeurs que tu portes.
Ben en fait, avec ma compagne, ça faisait très très longtemps qu'on avait commencé à faire attention à notre consommation. On avait pris conscience de l'impact qu'on pouvait avoir en fait sur le monde qui nous entourait, rien que parce qu'on achète, que ce soit la nourriture ou d'autres choses. Il y a eu un déclic il y a maintenant 6 ans. On est parti aussi, on a décidé de prendre un congé sabbatique tous les deux et on est parti 4 mois en voyage à Madagascar. Où là, on a commencé un mois avec une ONG qu'on avait, avec laquelle on avait pris contact depuis la France. Et après, on a fait deux mois tout seul, sac à dos, et on s'est débrouillé. On est tombé sur un petit village de tourisme solidaire dans lequel on est resté un moment, avec lequel on a gardé contact et qu'on a commencé à aider à titre personnel. Et en rentrant en fait en France, reprenant nos emplois respectifs, on s'est rendu compte que voilà, quelque chose aussi s'était passé de ce côté-là et qu'on avait on avait vraiment envie de changer notre rapport en fait à l'argent, à la consommation. Après il y a des lectures, il y a Pierre Rabhi notamment, il y a voilà le concept de la sobriété heureuse. On a voulu en fait essayer de moins consommer, de voir ce que ça changeait réellement sur notre vie. Et on s'est aperçu qu'on pouvait vivre avec beaucoup moins et il n'y avait finalement pas d'impact réel sur le bonheur, entre guillemets, quoi, sur notre bien-être. Et c'est de là, en fait, où le champ des possibles, en fait, c'est vraiment élargi. Puisqu'à partir du moment où on consommait moins, on avait moins besoin d'argent, on pouvait prendre plus de risques. Et faire quelque chose en fait moins rémunérateur comme reprendre une savonnerie.
Pourquoi le savon, la cosmétique?
Alors c'est un peu le hasard. En fait, au départ, pour que ce soit plus facile, moi je voulais m'orienter vers l'éco-construction. Donc je m'étais même inscrit dans un stage aux Amanins.
Toujours dans l'idée d'être un peu cohérent avec ces valeurs que tu portais, quoi, dans la décroissance, consommer moins, vivre autrement et peut-être plus être dans ce système matériel et capital.
Voilà, exactement. Et vu que j'avais une formation dans le bâtiment, c'était assez logique de commencer par l'éco-construction. Et puis je suis tombé un peu par hasard sur un article sur le savon. J'ai vu qu'il y avait un savonnier qui s'était installé dans un département voisin. J'ai commencé à fouiller et j'ai trouvé que ça réunissait pas mal de choses en fait. Au niveau des matières premières, on pouvait trouver à la fois des matières premières locales, donc aller dans les fermes, trouver des huiles dans les fermes. Après, on pouvait trouver des matières premières qui viennent de plus loin, comme le beurre de karité que nous on utilise en grande partie dans nos savons, avec une démarche, trouver une démarche équitable. Donc on trouvait intéressant de pouvoir à la fois avoir une démarche locale, mais aussi une démarche équitable avec un pays africain. Et le savon, ça permettait en fait d'allier les deux. Après, le gros avantage aussi, c'est l'investissement à la base qui est très faible par rapport à une autre activité. Mais on a eu plein d'idées qui nous sont passées par la tête. On s'est renseigné sur la spiruline, s'installer en maraîchage, en plantes aromatiques. Il y a eu beaucoup de choses avant de tomber sur le savon.
Pourquoi équitable et pourquoi local ?
Alors, local, parce que on pense que si on arrive à dynamiser, on est par exemple dans la région Auvergne, il se passe beaucoup de choses en Auvergne, il y a beaucoup de production de qualité, et si on arrive à échanger entre nous, on arrive à redynamiser en fait des milieux ruraux où il y a beaucoup de finalement de jeunes qui s'installent, mais qui ont besoin de déboucher tout de suite. Et en travaillant avec justement ces personnes, on arrive au niveau local à créer une dynamique, à se rencontrer, à essayer de monter des petits événements. Et maintenant, on a même une monnaie locale, ce qui permet d'échanger en fait en monnaie locale.
Tu es rentré dans le système, ouais. C'est toi qui l'as créé ou est-ce que tu as facilement adhéré à cette idée de monnaie locale ?
Non, en fait, c'était créé par une association qui a déjà, je pense, un an qui sont sur le sujet. Et on a adhéré quasiment au départ, ouais.
Donc ça, c'est pour le côté local et le côté équitable ?
Eh bien, le côté équitable, on nous reproche souvent qu'on utilise en fait quelque chose qui vient de loin, qui vient d'Afrique, alors qu'on pourrait trouver plus près. Alors, pour la question des savons, on peut pas. On est obligé d'avoir, par exemple, une matière solide, qui soit l'huile de coco ou le beurre de karité, pour donner de la dureté au savon. Donc, de toute façon, on est bien obligé de travailler avec une matière végétale exotique, entre guillemets, ou alors on aurait un savon qui fondrait très vite et qui... Voilà, ce serait très compliqué. Et nous, le côté équitable, par exemple sur le beurre de karité qu'on utilise, il est fabriqué en fait là-bas. Donc il y a une richesse qui est créée sur place. Il y a des moyens de production sur place. Et aujourd'hui, sur le beurre de karité, il y a un problème, c'est que la plupart est fabriquée en France, c'est mécanisé. Et en fait, même sur des karités qui est labellisé équitable, en fait, c'est l'achat de l'amande. Où il y a un prix qui a été fixé et qui est normalement équitable, mais le prix est quand même assez bas. Mais finalement, on retire le moyen de production. Donc on retire toute la richesse sur place. Et nous, on se bat pour qu'il y ait des gens qui puissent, comme nous on fait ici, travailler eux-mêmes, vivre de leur travail, rester dans leur village, pas se poser la question d'avoir envie de migrer en Europe avec les désastres qu'on peut voir en ce moment, des gens qui sont très bien dans leur pays et qui ont envie de développer des filières et de travailler avec nous. Voilà, et c'est ce qui se passe avec la société avec laquelle on travaille.
Alors aujourd'hui, quand on a une idée, on a des valeurs, des envies, on peut créer son entreprise, c'est ce que tu as fait à travers la localité, à travers le côté équitable, à travers ce que tu ressentais intérieurement suite à peut-être cet événement déclencheur qui était un voyage à Madagascar pendant 4 mois. Et tu crées ton entreprise, ou plutôt tu reprends une entreprise. Comment est-ce qu'on devient chef d'entreprise ?
En fait, c'est vrai qu'on n'est pas chef d'entreprise, on devient chef d'entreprise sur le tas. Après, c'est compliqué parce qu'il faut avoir toutes les compétences. On peut, je pense, sur la savonnerie, on pourrait identifier peut-être une dizaine ou une douzaine de métiers différents, entre la comptabilité, même que ce soit la manutention. Enfin, il y a plein de choses qui s'apprennent sur le tas. Après, c'est C'est vrai que le monde dans l'entreprise, on oppose le monde des salariés, le monde des patrons. Moi, j'ai créé une SAS, donc aujourd'hui, mon entreprise de laquelle je ne vis pas encore, je devrais pouvoir me dégager un salaire le mois prochain, ça va faire 2 ans que je travaille dessus. J'ai créé une SAS, donc aujourd'hui je suis PDG, je suis président directeur général de ma savonnerie. Donc c'est assez marrant d'imaginer ça. Maintenant, on fait des choix dès le départ, c'est-à-dire qu'on fait le choix dès le départ de travailler avec des filières équitables pour ce qui vient de loin, on fait des choix de travailler localement, on fait le choix pour tout ce dont on a besoin, notre matériel, les caisses dans lesquelles on met les savons pour présenter sur les salons, de travailler avec un artisan qui est à côté de chez nous. Et ça, ça fait partie de la matrice dans l'entreprise. En fait, soit ça marche comme ça, soit pour nous ça marche pas. On cherche pas à faire de l'optimisation fiscale ou à tricher sur nos impôts comme les grandes entreprises multinationales le font. Nous, notre choix, c'est de reverser dès le départ 1% de notre chiffre d'affaires à une association malgache en fait. Et dès le départ. Et pour nous, même si c'est plus compliqué, parce que finalement au niveau de tout nous coûte plus cher, que ce soit les matières premières, l'argent qu'on reverse. On se dit, c'est ce modèle-là qui doit marcher, donc on se bat tous les jours pour que ce modèle-là marche. Si ce modèle-là marche pas, eh ben, ça nous convient pas. Et notre combat de tous les jours, c'est de prouver que ça peut marcher. C'est de prouver qu'on peut avoir une entreprise, on peut même ensuite imaginer avoir des salariés, ce qui est pas notre choix au départ, mais tout en ayant une éthique. Voilà. Si on devait avoir des salariés, si l'entreprise devait grossir, on s'est déjà renseigné, on voudrait passer en SCOP, en fait, en société coopérative, et que chacun ait le même salaire dans l'entreprise. Aussi bien celui qui dirige que celui qui fabrique.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Donc dans l'idée, c'est ça, c'est de réussir à développer, créer de l'emploi et créer aussi cette équité au sein des salariés.
Voilà, je pense qu'il y a d'autres exemples que nous d'entreprises qui fonctionnent comme ça. On rencontre finalement, depuis qu'on a créé une entreprise, c'était le but aussi, on rencontre beaucoup de gens qui sont semblables à nous, entre guillemets, enfin qui portent ces mêmes valeurs, cette même envie. Et on connaît plein d'anciens informaticiens, anciens communicants, anciens employés de toutes sortes qui sont du jour au lendemain quasiment un premier dans le couple, le deuxième après, et qu'on décidé de à se donner cette chance en fait. Après, c'est un peu quand on en parle des fois avec des gens, c'est un peu la fameuse phrase de Gandhi, quoi. C'est d'incarner le changement qu'on souhaite pour le monde. Là, on a l'impression, en tout cas à toute petite échelle, parce qu'on est des toutes petites entreprises, on a d'essayer au quotidien d'être ce changement, quoi.
Et alors, on va en parler de ce changement. Quel est le changement que toi, tu aimerais voir dans le monde? Et comment est-ce que tu t'actives? Ou comment est-ce que tu poses ta goutte d'eau? Comment est-ce que tu fais ta part?
Nous, on aimerait un monde plus solidaire, justement. Plus solidaire, plus d'équité, plus de partage des richesses. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qui nous anime à tous les niveaux, que ce soit entre les pays dits occidentaux, dits du Nord par rapport aux pays du Sud, mais aussi à l'intérieur de chez nous. Aujourd'hui, tout travail est pénible à sa manière. Le travail d'un PDG, il est pénible. Le travail d'un ouvrier, il est pénible. Aujourd'hui, les différences de salaire, les différences de niveau de vie sont tellement différentes que finalement, les préoccupations des gens le sont également. Et on devrait avoir moins de différences entre les gens, plus de contacts, plus de solidarité. On pense que c'est ce qui permettrait au monde d'évoluer d'une meilleure manière.
Est-ce qu'on peut te considérer comme un de ces acteurs du changement ?
Je sais pas, j'espère à l'avenir contribuer à être... Après voilà, c'est peut-être une petite goutte d'eau, quoi. Une petite goutte d'eau.
Tu parlais de ta vie d'avant, donc de ta vie avec les week-ends. Aujourd'hui, quelle est la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle ?
Eh ben, il y a plus de frontières. C'est assez difficile à gérer ça au départ. Donc nous, c'est assez nouveau. C'est vrai que entre la vie familiale et la vie professionnelle, tout est un peu imbriqué. Donc il y a un côté qui est très sympa, ce qu'on voulait. Après, il faut faire attention de préserver aussi des moments pour soi, des moments pour sa famille, et pas être tout le temps au travail. Bon, aujourd'hui, par exemple, Je suis venu tout seul l'année dernière, donc j'étais à l'hôtel tout seul. Bon, c'est pas très réjouissant. Cette année, on a décidé de venir en famille. Donc, on a pris une petite location dans Colmar. On reste une semaine, on prend le temps et on se relaie sur le stand. Notre enfant de 3 ans découvre tout ce monde-là. Et voilà, c'est ce qui est intéressant.
Ta vision de l'avenir et les moyens mis en place pour l'atteindre.
Pour l'entreprise, on souhaite pas spécialement créer d'autres emplois que les nôtres. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu compliqué, mais on sait que tous ceux qui démarrent, en fait, c'est la première chose qu'ils disent, c'est je veux pas créer d'emploi, parce que je veux créer déjà nos emplois, qu'on arrive à se débrouiller. Après, ça peut être compliqué, et puis finalement, ça peut arriver. Avec une croissance assez imprévue et puis des rencontres aussi, des associations, on voit plus la chose à s'associer en fait, en coopérative, essayer de créer du réseau. En fait, on est très tourné vers le réseau en fait.
Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui dans ce que tu crées ?
Oui, complètement. Ouais, je me sens complètement acteur de ce que je fais. Je maîtrise ce qui est intéressant, c'est de maîtriser l'ensemble de la chose, en fait, du début jusqu'à la fin, du choix de mes fournisseurs jusqu'à la vente. On peut tout maîtriser, on peut prendre des risques, on fait ses choix, on se plante aussi, hein. Ça arrive aussi, et c'est vraiment bien de pouvoir être acteur de tout ça. Après, c'est vrai qu'aussi les gros salons, les grosses foires, ça nous permet aussi de porter un certain discours en fait par rapport à ce qu'on fait dans la vie. Je pense que quand j'étais consommateur, il y a plein de choses que je voyais pas en fait dans le monde de la bio ou du solidaire. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs d'informations, de savoir où on en est, savoir comment ça se passe exactement. Et ça aussi, c'est bien, de pouvoir transmettre un message.
Ce serait quoi ce message ? Où on en est et qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Ce qu'il en est, c'est que si on prend le secteur de la bio, par exemple, on a discuté avec mes voisins de stand hier, on a une petite discussion, c'est qu'aujourd'hui, y a quand même beaucoup d'industriels qui ont repris ce secteur. C'est un secteur qui connaît pas vraiment la crise, qui est plutôt en expansion, et y a beaucoup d'argent qui se fait dessus actuellement. Qui se fera plus comme un tas de choses quand ce sera plus la mode, quand ce sera un peu déclinant, les investisseurs iront ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui investissent dedans. Et nous, petites entreprises, qu'on considère plutôt comme vertueuses, il faut toujours qu'on se batte pour montrer que nos produits, on essaye du début à la fin d'être vraiment vertueux, et c'est pas du greenwashing, c'est pas du marketing, et voilà. Donc faut aussi qu'on se batte, quoi, pas forcément contre les industriels lambda, mais les industriels de la bio aussi.
Et pour terminer, donc tu as fait le choix avec ton entreprise de reverser 1% sur une association que tu rencontrais à Madagascar. On va en parler un petit peu.
Oui, c'est une association qu'on aidait à titre personnel. C'est une association réunionnaise qui s'appelle ACLES, c'est deux personnes retraitées qui sont à la tête de cette association depuis un moment. Ce qui nous semble intéressant dans cette association, c'est qu'il y a une association malgache qui s'est créée, qui s'appelle l'association Vita. Et en fait, le but de cette association humanitaire, c'est pas de s'implanter et de rester. Le but, c'est d'aider le village à se mettre en place, montrer certaines choses, des techniques, faire de l'échange, amener des gens, des touristes à venir faire du tourisme solidaire et donner en fait une chance à ces villageois de poursuivre tout ça, mais eux-mêmes en fait. Ce qu'on pourrait reprocher nous à certaines association humanitaire, c'est finalement d'arriver et après de se mettre en place, donc avoir des employés, des cadres et tout. Et en fait, finalement, si on enlève la misère ou les difficultés, on enlève leur emploi, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on aime dans cette association, c'est petit et c'est donc on les aide comme on peut.
Pas d'énormes frais de fonctionnement pour l'association.
Non, voilà, il n'y a pas de gros 4x4, il n'y a pas de beau logement de fonction et tout, c'est très simple, très rudimentaire pour tout le monde, et il y a une belle énergie, et on est content, nous, aujourd'hui, de se dire que tous les jours, même chaque client qui finalement prend un savon, il y a un tout petit quelque chose, 1%, c'est pas grand-chose, mais au moins, il y a un petit quelque chose qui va là-bas.
La savonnerie de Beaulieu, dans 5 ans, c'est quoi ?
J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Aujourd'hui, c'est peut-être exactement la même chose qu'aujourd'hui. C'est peut-être plus important, mais pas forcément. Et après, ça peut être aussi... on aura peut-être transmis en fait la savonnerie à quelqu'un d'autre et on sera peut-être parti sur quelque chose d'autre. On ne sait pas du tout.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.